Bien, merci. Je suis ravie d'être là et merci pour cette invitation. Alors, effectivement, je vais essayer de vous donner quelques éléments, peut-être justement sur cette question de la résilience dont on a pu entendre parler. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas. On va voir. En tout cas, on peut parler de résilience concernant des individus, on peut parler de résilience aussi concernant tout le groupe familial, et on va voir qu'on peut trouver des braises de résilience dans différents domaines. Peut-être pour donner, non pas forcément une définition, mais quelques jalons, alors on peut déjà considérer que finalement la résilience concerne ce que l'on appelle la reprise d'un développement après une situation traumatique. On dit parfois aussi reprise d'un développement après le fracas traumatique. Bon, on reviendra sur cette question de situation traumatique que l'on peut évidemment aborder de différentes façons. On peut aussi considérer, c'est ma façon aussi peut-être de l'aborder, que c'est l'art, pour des individus ou des groupes d'ailleurs, de résister à l'adversité en s'adaptant, mais aussi parfois en se renforçant grâce à cette expérience qui a pu être éventuellement traumatique à un moment donné et que l'on a pu dépasser. Alors, si vous voulez bien, pour aborder la résilience, je vous propose de faire un petit parcours à travers trois images qui tentent de rendre compte de ce qu'on appelle la résilience et qui donnent en fait chacune un aperçu un petit peu différent de ce qu'on appelle la résilience. Alors je vais commencer par une qui est assez connue, qui consiste finalement à dire la résilience, c'est un peu comme l'huître qui produit une perle, parce que vous savez que comment ça se passe, l'huître est en fait blessée par l'introduction d'un petit caillou, d'un grain de sable, et pour se protéger, l'huître va sécréter de la nacre, ce qui va lui permettre de se protéger des blessures occasionnées par ce petit caillou, ce grain de sable, et l'idée qui en ressort, quand on applique cette image, cette métaphore à la résilience, c'est de dire finalement, peut-être que le traumatisme, ou en tout cas un certain nombre de traumatismes, la source traumatique produirait en fin de compte quelque chose de beau ou de bon. Donc tirer quelque chose de positif d'une situation qui a pu être traumatique, ça c'est une des métaphores que l'on peut rencontrer. On évoque parfois un oxymore avec, et là je fais référence à un titre notamment de Boris Cyrulnik, que vous connaissez peut-être, qui a évidemment fait connaître beaucoup le domaine de la résilience et que je connais bien et qui est un ami par ailleurs. Alors, voilà pour la première métaphore, l'idée que finalement la résilience, effectivement, c'est la confrontation avec quelque chose qui est de l'ordre de la blessure, mais finalement on va arriver à quelque chose de beau ou de bon en se protégeant. Une autre métaphore consiste à se dire la résilience, c'est un peu comme de naviguer dans les torrents. Les torrents nous mettent en danger. Si on essaye de naviguer dans les torrents, il va falloir essayer de maintenir la trajectoire coûte que coûte, malgré parfois des moments difficiles. Et donc là, c'est une idée. L'idée, c'est d'évoquer les contextes hostiles auxquels on peut faire face. Et donc, c'est une autre approche de la résilience, parce que tout à l'heure, avec la métaphore de l'huître, on est plus au niveau de l'individu. Comment l'individu se protège de quelque chose? Là, cette deuxième métaphore, cette deuxième image, naviguer dans les torrents, fait référence aussi au contexte, qui est plus général, qui peut être hostile, mais qui n'est pas que hostile. C'est-à-dire qu'on va essayer, effectivement, si on garde cette image de maîtriser ou de tenter de maîtriser la trajectoire, d'éviter les blessures ou de les penser, avec un E aussi, pourquoi pas, mais que l'on peut aussi, dans ce contexte qui n'est pas que hostile, trouver de l'aide pour s'en sortir. Et je reviendrai d'ailleurs sur cette idée-là. Donc la résilience, ce n'est pas seulement trouver des ressources en soi seulement, mais aussi trouver des ressources pour se protéger de certains aspects, mais aussi trouver des ressources, des aides, des mains tendues, etc., dans l'environnement. Et ça, c'est important aussi à retenir. La troisième image, toujours pour poser les jalons concernant la résilience, qui consiste à se dire, finalement, la résilience, c'est tricoter ou tisser sa résilience. Autrement dit, là, c'est introduire une autre idée, qui est celle du fait que la résilience n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes, mais quelque chose qui se construit dans le temps. Ça pose donc la question de la pérennité ou non, du fait qu'on voit parfois des personnes qui semblent s'acheminer vers la résilience, qui peuvent rencontrer parfois des failles, hein. Dans ce tricot, il peut y avoir quelques trous, parfois, c'est pas toujours aussi évident, mais donc c'est quelque chose qui se construit au cours du temps. Et donc l'idée que l'on retient actuellement, c'est celle d'un processus, donc la résilience, appréhendée, conçue comme un processus dynamique et évolutif. On n'est pas devenu résilient une fois pour toutes, c'est quelque chose qui demande aussi un travail. On parle parfois d'ailleurs de travail de résilience, mais bon, on peut le retenir ou pas, cette idée. Donc voilà un petit peu pour poser quelques jalons pour démarrer sur cette question donc de la résilience. Alors on peut ajouter, évidemment, que la résilience fait donc référence à des ressources, mais j'ai souligné le fait que c'était des ressources au pluriel qui sont développées par les personnes. Bon, je le disais tout à l'heure, ça peut être des individus, mais aussi des groupes, donc y compris des groupes familiaux, des groupes sociaux. Donc, référence aux ressources, au pluriel, développées par des personnes pour se protéger des aspects mortifères des situations traumatiques. Mais, j'en rajouterai, et garder une qualité de vie. Alors, bon, faute de mieux, on peut dire sans trouble psychique sévère. Parce que lorsqu'on est confronté à des situations traumatiques, on a le droit aussi d'avoir quelques petites perturbations. Ça ne veut pas dire que tout va mal pour autant. Mais au bout du compte, le cheminement résilient suppose qu'on arrive à garder malgré tout une certaine qualité de vie. On dit d'ailleurs habituellement que l'on fait en fait un parcours qui consiste, après la rencontre traumatique, la situation traumatique ou traumatogène, qu'il s'agit en fait de la reprise d'un nouveau développement. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si rien ne s'était passé. Quelque chose s'est passé à un moment donné, on continue sa trajectoire de vie, mais pas comme si rien ne s'était passé, avec, en prenant en compte, en intégrant cette expérience que l'on a rencontrée et qui peut être tout à fait intéressante au bout du compte, même si sur le moment, elle peut faire mal. Donc la résilience, vous l'aurez compris, est fortement liée à l'idée de traumatisme. Le traumatisme, alors, on s'est intéressé à la résilience depuis déjà un certain temps, j'aurais pu commencer là-dessus, mais je vais pas vous faire les aspects historiques. Ça fait déjà peut-être une bonne quarantaine d'années que l'on travaille sur des questions de résilience dans la communauté scientifique. On en parle depuis moins longtemps un petit peu ailleurs, notamment en France, mais bon. En tout cas, on s'accorde pour considérer que la résilience a à voir avec le traumatisme. Alors, que se passe-t-il? Mais ça, je vous apprendrai rien, c'est peut-être sûrement un rappel. Que lorsque l'on a affaire à des traumatismes, eh bien, suivant les individus, suivant les circonstances, etc., on va avoir une variabilité des conséquences. On ne va pas avoir tous les mêmes réponses, les mêmes conséquences, les mêmes séquelles éventuelles, etc., par rapport à un même traumatisme. Alors, on pourrait là aussi trouver une autre image, qui est celle... je vais vous en donner deux. Alors la première qui avait été proposée par un chercheur qui s'appelle Anthony et d'autres, c'était la métaphore des trois poupées. Mais je ne m'en tiendrai pas là, je vous le dis tout de suite d'emblée pour que vous le sachiez, je vends un petit peu la mèche. À savoir, alors pour vous donner en substance l'idée de cette métaphore, il s'agit bien sûr d'une métaphore qui essaye de mettre en image le traumatisme. Alors il disait, voilà, en substance, vous imaginez trois poupées qui reçoivent un coup de marteau d'égale intensité. Même type de coup de marteau, trois poupées. Mais ces trois poupées sont différentes. Il y en a une qui est en verre, une autre en plastique et la troisième en acier. Donc on est là dans l'idée, à l'époque, hein, c'est dans les années 80, on était beaucoup moins avancé sur la question de la résilience, et vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc l'idée qui émane ici, c'est que par rapport à un même traumatisme, eh bien, effectivement, on constate des différences. Mais l'idée qui émane ici est un peu réductrice, parce que on a l'impression qu'effectivement, la réponse, c'est évidemment la poupée en verre va être complètement détruite, la poupée en plastique va garder des séquelles, elle va s'en sortir, mais très marquée, puis la poupée d'acier, peut-être quelques éraflures, et sans plus. Donc l'idée, c'est que des individus auraient une constitution qui réagirait, enfin qui leur permettrait de réagir différemment au traumatisme. Donc, mais ce qui est un petit peu gênant dans cette métaphore, c'est qu'elle est essentiellement centrée sur les différences d'un sujet à l'autre, et uniquement. Or, on est tous des animaux, je dis ça avec bienveillance, sociaux. C'est-à-dire qu'on ne vit pas tout seul. Hein. On vit en famille, en société, etc. On n'est pas... Bon, et si on répond à un traumatisme, c'est pas uniquement par rapport à notre propre constitution, nous tout seuls. On répond à un traumatisme aussi en fonction de ce que l'on a dans notre environnement, comme aide, ou pas, d'ailleurs, comme soutien, ou éventuellement... Comme facteur aggravant. Donc l'idée, là, cette métaphore ne nous convient pas pour vraiment répondre à la résilience. On pourrait répondre sur certains aspects, mais certainement pas sur tout. Alors je vous en propose une autre, que j'emprunte à un collègue qui s'appelle Michel Mancio, qui est un universitaire maintenant, il est à la retraite, mais il est toujours actif de l'Université de Nancy, et qui a proposé ceci, en substance. Hein, là aussi, je retraduis, évidemment, il n'avait pas fait ces petits dessins, mais l'idée, c'est là. Alors, on peut se contenter d'une seule poupée pour cette démonstration. Vous allez voir pourquoi. Imaginez, donc, on fait tomber une poupée. Les séquelles, évidemment, de cette image du traumatisme, hein, dépendront de différents paramètres. On peut évoquer la force du jet. On peut évoquer l'intentionnalité ou pas de ce traumatisme, du fait de faire tomber ou de jeter la poupée. Est-ce qu'il y a négligence, agression? Ça peut être un élément aussi. Mais également, les éléments du contexte. Pour garder la métaphore, ici, la nature du sol. Est-ce que la poupée va tomber sur du béton, sur du sable, sur de la moquette, sur un matelas moelleux et qui va... Bon, vous aurez compris l'idée. C'est-à-dire que le contexte peut être, en fait, soit aggravant. Poupée qui tombe sur le sol de béton, ça peut faire mal. Ou au contraire, le contexte peut atténuer le choc, les risques. Donc ce sont des éléments qui sont importants. Et on peut rajouter, bah oui, aussi l'importance aussi du matériau dont est fabriquée la poupée. Là aussi, si elle est en verre, en porcelaine, en chiffon, en acier, etc., il peut y avoir toute une graduation. Mais l'idée qui est magnifique, contrairement à l'image précédente, c'est que les réponses que l'on peut avoir par rapport à une situation traumatique sont plurielles et émanent d'une multitude de facteurs qui ne sont pas uniquement réductibles aux capacités du sujet. C'est un élément qui peut être important, mais il peut y avoir des éléments aussi de contexte de vie qui peuvent atténuer, qui peuvent protéger, qui peuvent accompagner ou qui parfois ont des effets contraires. Donc on est là dans une métaphore qui est beaucoup plus proche de l'idée qu'on se fait du cheminement de la résilience. Autrement dit, on n'est pas résilient tout seul, on est résilient, si on arrive à être résilient, dans un contexte avec d'autres et peut-être aussi grâce à d'autres. Et je reviendrai aussi sur cette idée. Bon, là c'était juste un petit rappel de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que les effets du choc, bon, du traumatisme, ne sont pas liés seulement aux capacités internes du sujet pour faire face à l'agression, même si c'est un élément qui peut être important, mais dépend aussi, bien sûr, de l'environnement, hein, dans la métaphore que j'ai présentée juste avant, est-ce que la poupée va tomber sur un matelas qui va plutôt l'aider, la protéger, ou est-ce qu'au contraire, le sol en béton, par exemple, pourrait éventuellement amplifier le choc. Donc on est là dans l'idée, et c'est la dernière ligne qui est importante, peut-être ici à retenir, l'idée que la résilience va se mettre en place à travers l'interaction entre ce qu'on appelle des facteurs de risque et des facteurs de protection. Il y aura résilience, bien entendu, si le second volet, c'est-à-dire si les facteurs de protection prennent le dessus par rapport aux facteurs de risque. Mais il ne s'agit pas de négliger l'importance des facteurs de risque, mais aussi de ces facteurs de protection. On est donc dans cette interaction-là, lorsque l'on a affaire à un cheminement de résilience. Donc il ne s'agit pas d'oublier les souffrances, les difficultés, etc., les facteurs de risque. Mais les facteurs de protection peuvent aider, bien sûr, à s'en sortir. Alors concernant les familles, on peut, là je pense que je ne vous apprendrai pas grand-chose, hein, si ce n'est peut-être mettre des mots parfois sur des, sur des ressentis, mais peut-être que vous les avez mis aussi. On peut considérer que les familles, face à des situations de handicap, ont affaire à un contexte qui peut être traumatogène, c'est-à-dire potentiellement traumatique. Et on peut repérer une pluralité des épreuves auxquelles peuvent être confrontées les familles. On peut rappeler bien sûr une atteinte narcissique. Un certain nombre, notamment de collègues, psy et autres, ont travaillé sur ces aspects-là. On va retrouver des sentiments parfois de culpabilité, un éprouvé d'adversité, des sentiments d'injustice, etc. Tout cela peut constituer un contexte qui va dans le sens de sentiments, là aussi au pluriel, de détresse familiale, parfois globale, qui peut passer par des moments, suivant la période, etc., de colère, de révolte, de déstabilisation, de désorientation. Parfois, ça peut se traduire chez certains sujets, et c'est tout à fait compréhensible, par une symptomatologie dépressive, par des éléments d'anxiété, etc., etc. Si on continue un petit peu, on peut rajouter aussi qu'il y a d'autres éléments de perturbation, hein, dans cette pluralité des aspects potentiellement traumatogènes pour les familles confrontées au handicap. Tout d'abord, on peut considérer que l'unité familiale peut se trouver ébranlée dans ses fondements, avec notamment quelque chose que qu'on a mis du temps, en tout cas chez les psys, à prendre en compte, maintenant ça y est quand même, c'est l'idée de cette atteinte de l'image de parents qui peut être un éprouvé dans les familles, avec notamment, c'est pas le seul élément, mais notamment l'impression d'être dépossédé par les professionnels. Alors quand je dis l'impression, c'est peut-être pas toujours qu'une impression. Vous êtes mieux placé que moi pour le dire, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Dépossédé, on peut avoir donc cette impression d'être dépossédé, à juste titre parfois, par les professionnels concernant les choix et les responsabilités parentales qui sont habituellement dévolues aux parents. Pourquoi va-t-on proposer telle ou telle orientation à tel enfant, ou telle prise en charge, ou telle thérapeutique, etc., etc. Et les parents ne sont pas toujours à la place qu'ils devraient avoir, c'est-à-dire une place de décision. Il y a d'autres éléments aussi qui peuvent participer à cette déstabilisation donc de la famille, de l'unité familiale. Ce sont toutes les formes de rejet, de stigmatisation, de mise à l'écart, d'exclusion, etc., qui émanent de la société dans son ensemble et qui peuvent aussi émaner de la famille élargie, des amis qui parfois se font plus rares, ne viennent plus, et on peut avoir un isolement qui n'est pas forcément le fait, j'entendais ce matin quelqu'un qui disait certains aidants notamment parfois s'isolent, c'est vrai qu'il peut y avoir cet aspect-là et qui peut concerner éventuellement l'ensemble de la famille, mais parfois c'est aussi le reste de la société ou la famille élargie qui tend à isoler, on n'invite plus, etc. Enfin bon. Tout ça peut évidemment se traduire par des risques aussi, dans cette déstabilisation de la famille, des risques de conflits qui durent ou perdurent, parfois qui vont jusqu'à la séparation, ou des séparations, on connaît tout ça. On peut dire que l'adaptation et la flexibilité de la famille sont mises à rude épreuve dans ces situations-là, plus que peut-être que dans d'autres. Voyons maintenant quelles compétences, quelles ressources peuvent atténuer ou contrer les risques donc de déstabilisation, de difficultés, etc., les risques liés à ces situations un petit peu particulières auxquelles font face les familles. Et comment, à partir de quelles ressources ou de compétences, les familles peuvent participer au processus de résilience. Alors tout d'abord, rappelons que la résilience, je vous disais tout à l'heure, on n'est pas résilient tout seul, on est résilient dans un environnement. Et cet environnement, c'est aussi celui qui est constitué par la famille et par la société, hein, ou l'environnement social. On dit le socio-environnement parfois pour globaliser tout ça. Donc on peut rappeler que la résilience s'appuie sur trois piliers qui sont des ressources donc individuelles, c'est-à-dire les caractéristiques des individus, les particularités, les ressources, les compétences, etc. Je reviendrai sur quelques aspects. Mais également sur les caractéristiques du contexte familial et affectif. Quand je dis familial et affectif, ce n'est pas forcément uniquement la famille d'origine. Ça peut être aussi la famille que l'on constitue. mais ça peut être évidemment les deux. Donc des éléments, des ressources qui émanent du contexte familial peuvent participer au processus de résilience, et également le contexte environnemental plus large, c'est-à-dire des éléments qui sont issus de la société. Alors ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a pas forcément égalité d'intervention de chacun de ces piliers. On va avoir au bout du compte des cheminements de résilience qui seront toujours singuliers, atypiques, propres à chacun ou propres à chaque famille. Évidemment, en fonction de son contexte de vie, des caractéristiques des individus, des ressources et des compétences intrafamiliales, mais aussi celles de l'environnement. Parfois, c'est la famille qui sera au premier plan. Parfois, c'est l'environnement qui pourra éventuellement pallier, compléter, pourquoi pas, momentanément ou à plus long terme, des éventuels, on va dire, ça pourrait aller vite, des défaillances ou des difficultés familiales qui peuvent être plus ou moins pérennes ou plus ou moins ponctuelles, etc. Ou parfois, ce sont les caractéristiques des individus ou de l'individu qui peuvent apparaître comme étant au premier plan. Donc on n'a pas un modèle de la résilience, et j'allais dire heureusement, qui prendrait à égalité les trois piliers. On peut avoir évidemment des éléments tout à fait différents. Ça peut aussi évoluer. Rappelez-vous la petite métaphore de tout à l'heure avec la construction, le tissage ou le tricotage de la résilience. Eh bien, parfois, en fonction des parcours de vie, c'est l'un ou l'autre de ces piliers qui va prendre plus ou moins d'importance. Au niveau individuel, peut-être quelques éléments protecteurs qui facilitent la résilience. Alors, parmi les éléments que l'on peut retenir, parce qu'il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas de qualité particulière. Mais quand on observe des personnes qui sont réputées résilientes, on observe un certain nombre de constantes, en tout cas que l'on va trouver assez fréquemment, même s'il y a une singularité, même s'il y a, évidemment, chaque résilience est particulière quand même. Hein, mais bon. Alors, on a un certain nombre d'éléments qui apparaissent comme protecteurs, c'est-à-dire qu'ils permettent de faciliter le cheminement vers la résilience. Il faut l'entendre comme ça, hein. Ce ne sont pas des facteurs de résilience en soi, mais qui facilitent la résilience. Alors, le fait de pouvoir se projeter dans l'avenir. Pourquoi ? Parce que simplement, déjà, on n'est pas uniquement dans l'immédiateté, dans les difficultés que l'on peut rencontrer parfois dans l'instant, mais on est déjà en train d'anticiper sur quelque chose. C'est porteur d'espoir, c'est aussi pas seulement porteur d'espoir, on va se mettre en place un certain nombre d'activités, etc., donc quelque chose de dynamique. L'estime de soi, alors là, sachant que, bon, j'ai pas le temps de développer aujourd'hui, mais l'estime de soi qui peut être variable. Parce que l'estime de soi, c'est en partie un regard que l'on a sur soi et en partie, j'allais dire, pour aller vite tout seul, mais l'estime de soi se construit ou se consolide ou au contraire est écornée aussi par le regard que l'on a, que l'on reçoit des autres. Donc c'est quelque chose d'interactif, c'est pas uniquement notre propre perception. Notre perception va être modulée en fonction aussi de celle que l'on reçoit des autres. Donc bon. Donc en gros, retenez qu'un minimum d'estime de soi, une estime de soi suffisante, est aussi un élément qui aide. D'autres éléments comme la sociabilité, l'empathie, qui permettent de nouer des liens sociaux plus facilement, de s'insérer dans les groupes, dans la société, etc. Donc ce sont des éléments qui vont aussi faciliter la résilience, y compris dans les moments où on rencontre des difficultés. Et on peut ajouter la créativité et l'humour. Je ne vais pas parler que d'humour aujourd'hui, parce que ce n'était pas l'objet principal, mais c'est un élément. Mais je reviendrai, vous allez voir quand même un petit peu là-dessus tout à l'heure. Donc créativité et humour, parce que ce sont aussi l'humour, la créativité permettent aussi de mettre en œuvre un élan vital, un élan de vie, y compris dans les situations qui peuvent parfois apparaître comme délétères. Concernant la famille et la résilience, là aussi, quels sont les facteurs qui peuvent faciliter au niveau du groupe familial, dans la dynamique familiale, quels sont les éléments qui participent ou qui permettent de contribuer à la résilience, à la mise en place de la résilience? Eh bien, c'est déjà une bonne qualité de communication, des interactions chaleureuses et positives. Lorsque la famille est capable aussi de mettre en place des modalités de soutien, dans un cadre affectueux, etc. On dirait que ça paraît un peu une famille idéale, mais bon, c'est pas. On peut avoir une famille qui fonctionne bien avec peu de communication, ou une communication réduite à des aspects très factuels. Comment, où on est, est-ce que mon fils, notre fille a mangé, a eu ses médicaments, etc. Non, là, c'est prendre en compte d'autres aspects aussi de la communication, l'un n'empêchant pas l'autre. Là aussi, la capacité de se projeter dans l'avenir, mais en tant que groupe, en tant que famille, en tant que unité familiale. Et les éléments, donc, de flexibilité et d'adaptabilité. Et donc, l'humour aussi. Donc, l'humour. Là, au niveau familial, hein, c'est-à-dire que pas seulement au niveau individuel, mais j'en reviendrai. Alors, du côté du contexte social, quels sont les éléments... Je suis allée trop vite, non? Là. Quels sont les éléments du contexte social qui, là encore, sont susceptibles de faciliter le cheminement résilient? Eh bien, c'est tous les systèmes de solidarité, de soutien que l'on peut rencontrer dans la communauté sociale. Ça peut être aussi la communauté religieuse, l'appartenance à quelle que soit la religion. Ça peut être à des aspects plus idéologiques ou culturels de la société. Donc des appartenances qui vont créer des réseaux de solidarité, d'échange. Je crois qu'ici, vous avez mis en œuvre notamment encore toute la journée des éléments comme ça. Le fait aussi de garder une implication sociale active pour les individus, y compris les individus en situation de handicap. Je ne vous apprends rien, ce n'est pas toujours facile, mais c'est un élément important. Le sentiment ou les sentiments d'appartenance sociale, bon, qui vont un peu avec, et les valeurs d'entraide, de tolérance, etc. Tout ça constitue des constantes que l'on retrouve autour des individus ou des groupes, notamment familiaux, qui arrivent à mettre en place des processus de résilience. À noter que, ça peut paraître évident, mais ça va mieux en le disant, que la diversité des supports et des soutiens est préférable à un support unique et réduit. Autrement dit, si vous appartenez à une communauté, c'est bien. Si c'est une seule communauté, ça peut être enfermant. Il vaut mieux avoir une pluralité de soutiens, de communautés, de supports sociaux. Tout ça est beaucoup plus évidemment, ça permettra plus, comme on disait tout à l'heure, d'adaptabilité, de flexibilité. Alors, peut-être un exemple de ressources environnementales pour tirer un petit peu la ficelle de cet aspect-là. Eh bien, ce qu'on entend par les ressources, les modes de soutien, évidemment, socio-environnementaux, ce sont les réseaux d'appartenance qui peuvent être aussi bien des réseaux formels que informels. Formels, bon, vous savez ce que c'est. Informels, ben, ça peut être, évidemment, les réseaux amicaux, les collègues, les voisins. Plus formel, les associations, encore que les associations peuvent être un peu à l'interface entre le formel et l'informel. En tout cas, tous ces réseaux qui vont permettre de trouver des solidarités, des soutiens, des lieux d'échange, etc. Tout à l'heure, on parlait, il était question encore ce matin, par exemple, de groupes de parole. Les anglo-saxons parlent de counseling pour évoquer les mêmes choses, finalement, s'il y a le fait de pouvoir aussi appartenir parfois à des groupes. Là, il s'agit de groupes plus formels qui permettent d'échanger sur des ressentis, mais aussi de s'informer. Donc, il y a les deux volets. C'est pas simplement, uniquement évoquer les difficultés, mais trouver aussi des idées, des ressources, etc. Parmi les ressources socio-environnementales, un petit mot sur ce qu'on appelle les tuteurs de résilience. Bon, on peut aussi parler de personnes signifiantes. En tout cas, les tuteurs de résilience concernent des individus ou des groupes d'individus. Ça peut être aussi, en fait, là aussi, un groupe social qui va aider, qui peut aider de différentes façons. Alors, bon, moi, j'aime bien aussi le terme de personnes signifiantes parce qu'en fait, les tuteurs de résilience sont en général choisis, si je puis dire, pas forcément consciemment, mais par les personnes qui sont en train de mettre en place un processus de résilience, C'est-à-dire pour pouvoir devenir tuteur de résilience de quelqu'un, il ne s'agit pas de s'imposer en tant que tuteur. On peut être là, on peut accompagner, mais il faut bien qu'on soit reconnu comme une personne ou comme des personnes signifiantes par les sujets blessés pour pouvoir prétendre à être tuteur de résilience. Je ne sais pas si je suis claire. Après, bon, vous me direz. Donc parmi ces tuteurs de résilience, alors on peut avoir différentes personnes. Ça peut être là aussi des pairs, PAIRS, d'autres personnes qui sont dans des situations semblables. Là encore, hein, ces journées sont tout à fait représentatives de ces aspects-là. Mais ça peut être aussi le conjoint ou la conjointe, ou celui qui deviendra le conjoint ou la conjointe, qui, à un moment donné, est quelqu'un sur qui on peut compter, qui va être un soutien. Ça peut être donc des relations amoureuses, des amis confidents, etc. Du côté des professionnels, les tuteurs de résilience, on peut les rencontrer parmi les soignants, parmi les enseignants parfois, ou les éducateurs, les psychologues, etc. Mais ce n'est pas du tout réservé aux psychologues, bien entendu. Donc tout le secteur dit sanitaire et social, pour aller très vite, peut aussi constituer des potentiels tuteurs de résilience. Mais encore une fois, comme je disais au tout début de mon propos sur les tuteurs de résilience, on ne peut pas s'imposer en tant que tuteur de résilience. Il faut bien qu'il y ait un accord et une reconnaissance par là ou les sujets blessés, la personne blessée ou les sujets blessés. Alors, il s'agit donc de tiers bénéfiques qui offrent un soutien, une écoute, une aide, ou qui parfois deviennent un modèle, parfois à leur insu, notamment un modèle. C'est pas forcément celui qui est en situation d'être tuteur de résilience ne va pas forcément se savoir ou agir en connaissance de cause, et il peut devenir aussi donc celui qui est là au bon moment, qui apporte une main tendue, qui redonne confiance. Un des exemples que je donne quelquefois, mais on pourra en trouver bien d'autres, c'est pas dans le domaine des familles en situation de handicap, mais vous pourrez voir qu'on peut transposer. C'est l'histoire, très très rapidement présentée, c'est de Georges Brassens. Bon, les plus jeunes, vous avez peut-être entendu parler de Brassens en classe, à travers des poèmes, etc. Pour d'autres un peu plus de mon âge, on a surtout en tête aussi ses chansons. Mais bon, Brassens écrivait ses textes. Et Brassens, avant d'être le chanteur poète que l'on peut garder en tête, a connu une enfance assez difficile. Il allait du côté de la délinquance. Il était plutôt dans ce qu'on appelle maintenant les décrocheurs scolaires, mais un peu plus. Bon. Et à un moment donné de son parcours, il a rencontré un enseignant qui a vu qu'il avait des capacités justement de créativité, et qui l'a encouragé dans ce sens, qui l'a encouragé à écrire, qui l'a encouragé, et qui du coup l'a empêché de partir du côté de la pente qui n'était pas tout à fait souhaitable. Bon. Et quelques temps plus tard, Brassens lui a rendu hommage à travers une chanson que vous connaissez peut-être, pour ceux qui connaissent Brassens, c'est l'Auvergnat. Voilà, c'est l'Auvergnat. Toi l'Auvergnat qui sans façon, etc. m'a donné du pain quand j'avais faim. Alors, il l'a romancé, hein, il a présenté ça de manière, effectivement, avec sa créativité, mais c'était pour rendre hommage à cet enseignant qui lui avait effectivement tendu la main à un moment donné où il allait basculer vers quelque chose de pas très positif pour sa trajectoire de vie. Mais bon, je ne sais pas si l'enseignant avait conscience, probablement pas, qu'il a été tuteur de résilience. On rencontre ces éléments-là bien souvent. Mais on peut les rencontrer, y compris pour un groupe familial. Parfois, c'est, bon, y compris un professionnel, un soignant, un médecin, pourquoi pas, ou quelqu'un d'autre, ça peut être des amis ou d'autres personnes que l'on rencontre et qui apportent une aide, un soutien, qui redonnent confiance. Donc, on peut retenir que la résilience est ensuite un processus composite. Composite parce qu'il s'appuie sur des aspects en fait assez variables, et on peut le résumer ainsi en disant que le processus de résilience est issu de l'interaction entre des variables internes au sujet, qui qui peuvent concerner aussi bien des éléments de la personnalité, leurs particularités, y compris physiques, mais aussi d'un point de vue plus intrapsychique, des mécanismes défensifs, les aptitudes cognitives qui peuvent être éventuellement mises en jeu, mais aussi les aptitudes sociales. L'un ne va pas forcément avec l'autre, d'ailleurs. Hein. On peut avoir des bonnes aptitudes cognitives et des mauvaises aptitudes sociales, et vice-versa, etc. Bon, en tout cas, les variables internes sont évidemment un des éléments du processus de résilience, mais comme on l'a vu tout à l'heure, ça ne se réduit absolument pas à ça. On a aussi donc des variables que l'on peut qualifier d'externes, c'est-à-dire que la résilience va dépendre des caractéristiques de l'environnement social et affectif, pour ne pas reprendre les termes que j'ai évoqués tout à l'heure à travers la famille, les relations affectives plus générales. Donc, toutes les fois que l'individu va pouvoir trouver des ressources, des étayages, des soutiens qui vont permettre de mettre en place cette résilience. Qui explique que l'on va avoir, comme je disais tout à l'heure, des formes de résilience spécifiques, singulières, atypiques, et pas un seul modèle de la résilience, ce qui fait d'ailleurs un petit peu parfois problème pour et qui donne des fois des grains à moudre aux détracteurs de la résilience qui disent bah oui, mais finalement la résilience, est-ce que ça peut être des tas de choses? Bah oui, mais on peut le voir du côté positif. C'est bien que ça puisse être des tas de choses et que ce ne soit pas quelque chose de figé, c'est pas un modèle figé. C'est pas non plus une aptitude comme ça qui serait donnée une fois pour toutes. C'est quelque chose qui se construit, c'est pour ça qu'on parle de processus. On pourrait trouver évidemment plein d'exemples, et je suis sûre que vous en avez plein. Hein. J'étais il y a deux jours dans un colloque qui concernait un autre domaine de la société qui est tout à fait intéressant, qui concernait donc le domaine des personnes âgées. Pour aller vite. Et là, j'intervenais sur « Peut-on rire de la vieillesse ?» On m'avait proposé ça comme un défi. Bon, peu importe. Et ce qui, parmi les échanges, beaucoup m'ont dit, enfin, je le savais un peu déjà, que y compris les personnes atteintes d'Alzheimer font preuve d'humour, alors même qu'on ne l'attend pas forcément là. Bon, on peut donc rencontrer l'humour chez beaucoup de personnes, y compris, bien sûr, dans les diverses situations de handicap. Je vais vous présenter peut-être juste une petite anecdote tout à fait, d'ailleurs locale, parce que c'est quelqu'un qui est lyonnais, donc une personne que je connais, qui est une personne aveugle. Je précise qu'il dit lui-même qu'il ne veut pas que l'on dise de lui qu'il est non-voyant, mais bien aveugle. Bon, donc voilà, ça c'est un positionnement. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Donc, je vous présente très rapidement l'anecdote. Quelqu'un vient, on était dans une situation sociale, et se présente à lui serre la main et lui dit, comme il est aveugle, il ne le voyait pas, il lui serre la main et lui dit, ben, je suis monsieur, mettons Durand. Et cet ami qui répond, ah oui, d'accord, oh, ben, vous savez, je ne suis pas très physionomiste. Bon, voilà, ben, justement, un certain nombre de personnes ont ri, d'autres sont restées en disant, mais... Je m'autorise ou pas? Et bah si, et lui-même était très content parce que bah oui, pourquoi pas? Voilà, bon. L'autodérision, et alors? Très bien. Comment? Vous avez des commentaires par rapport à ça? Bon, c'était une petite anecdote tout à fait réelle et locale, mais je suis sûre que vous en connaissez plein comme ça. Mais là, je voulais évoquer quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Lizzie Velasquez. Quelqu'un, je ne sais pas, vous la connaissez pas, c'est une jeune américaine qui est assez extraordinaire, qui a une vie, je pense qu'on peut présenter Lizzie comme une jeune, notamment, qui relève du processus de résilience. En deux mots, de quoi s'agit-il dans son histoire de vie? Très rapidement, hein. Elle est atteinte d'un syndrome très rare, notamment aveugle d'un œil, et elle a une constitution, elle est très très maigre, toute menue, pour ne pas dire plus, et elle est obligée de s'alimenter sans arrêt, toutes les 20 minutes au moins, sinon elle meurt, parce qu'elle ne s'immule pas, elle garde pas. Et là, elle a 26-27 ans actuellement, et elle pèse moins de 30 kg pour 1m57, ce qui est quand même vraiment un petit gabarit. Et en mangeant tout un tas de choses, alors elle dit d'ailleurs qu'elle peut manger des tas de sucreries, ce qui fait que beaucoup d'autres l'envient d'ailleurs, parce que ça ne fait pas bon. Et justement, alors bon, peut-être un rappel aussi, le pronostic médical au moment de sa naissance était on ne peut plus pessimiste, puisque il avait été indiqué aux parents qu'elle ne devait jamais marcher, ni apprendre à parler, etc. Donc vraiment, bon, on s'attendait, enfin les médecins en tout cas, s'attendaient à ce qu'elle ait un avenir quand même très 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 difficile. Évidemment, elle était de très très petit poids, vous pouvez vous en douter. Mais il n'en a pas été ainsi. Et Lizzie est actuellement, donc 26-27 ans, elle est diplômée d'université, elle a un diplôme en communication, elle fait des conférences, elle a écrit plusieurs livres, ce qui est quand même assez extraordinaire par rapport à ce qu'on avait imaginé. Hein. Mais elle a énormément d'humour aussi. Et c'est pour ça que je la cite en exemple. Et j'ai pu entendre et voir des conférences qu'elle fait. Elle plaisante sur sa propre histoire, sur son physique, sur le fait que, bah oui, elle est obligée de manger tout le temps, mais elle pourrait aussi faire de la publicité pour les marques qui proposent des régimes alimentaires, etc., etc. Donc elle utilise énormément l'autodérision, alors qu'on aurait pu imaginer, pourquoi pas, qu'elle soit dans la tristesse, dans la difficulté, etc. Elle n'est pas du tout dans ce registre-là. Donc l'autodérision, ça c'est un élément, c'est pas la seule forme d'humour hein, qui est utilisable, mais c'est une des formes qui est peut-être la plus intéressante et la plus souvent rencontrée. Donc on peut dire que l'humour est une des ressources psychiques parmi les plus riches et complexes, et plus complexes qu'il n'y paraît. Parce que parfois on pense, à tort, que l'humour c'est uniquement récréatif. C'est vrai qu'on peut utiliser l'humour simplement à titre récréatif, et c'est déjà pas mal, ça peut être déjà tout à fait plaisant. Mais on peut aussi utiliser l'humour, et bien souvent on l'utilise les uns et les autres, pour se protéger dans différentes situations. Ce qui fait que dans le cheminement de la résilience, on rencontre cette ressource psychique assez fréquemment. Pas systématiquement, hein. Tous les résilients ne sont pas pleins d'humour et ne sont pas drôles. Hein. Mais on la rencontre quand même assez souvent parmi les résilients. Donc c'est ce qui montre bien que c'est un élément quand même qui facilite le cheminement vers la résilience. Et on peut dire que l'humour peut être salvateur et salutogène. Pourquoi ? Parce qu'on peut utiliser l'humour pour se protéger dans certaines situations difficiles. On le fait même dans des situations un peu quotidiennes. On peut parfois utiliser l'humour, comme on dit, pour se tirer d'affaires, se tirer d'embarras, mais pas seulement. Mais on peut aussi utiliser l'humour, y compris dans des situations qui apparaissent comme plus graves, voire tragiques. Retrouver un peu un espace, sinon de plaisir, en tout cas de distance, etc. Donc on peut considérer que c'est un processus salvateur et salutogène. Quelques éléments justement sur ces aspects salutogènes, j'ai repris les grandes lignes. J'en dis beaucoup plus dans mon livre que vous n'avez pas l'occasion de retrouver, mais bon, c'est entré à part. Bref, donc là, ce qu'on peut retenir parmi les aspects salutogènes de l'humour, c'est le fait qu'effectivement l'humour nous permet une distanciation par rapport à des affects négatifs. Il libère les tensions, il nous aide à nous défendre contre l'angoisse, et comme disait Freud, puisque il n'y a pas que Freud hein, qui a parlé d'humour, Freud a parlé essentiellement d'une certaine forme d'humour, mais pas de toutes, eh bien, c'est l'occasion de retrouver des sensations de bien-être, de plaisir, dans des situations où parfois on a surtout du déplaisir. Donc, remplacer le déplaisir par le plaisir. L'humour, c'est aussi une ressource qui nous permet de nous revaloriser narcissiquement. Il peut permettre aussi de faire remonter l'estime de soi dans un certain nombre de situations. Pourquoi ? Parce que bien souvent, la plupart du temps, à quelques exceptions près, l'humour est valorisé socialement. C'est un vecteur de liens sociaux. Il nous permet de dire des choses en gardant... Comment ? En gardant un certain recul et de dire, y compris, faire passer des messages ou des revendications sous une forme socialement acceptée, on pourrait dire, hein, etc., etc. Donc, je vous disais, il engendre la sympathie, la plupart du temps, permet de créer ou de recréer du lien social, ce qui peut aussi, du coup, participer au processus de résilience, puisque rappelez-vous que la résilience, c'est aussi pouvoir s'appuyer sur des liens sociaux, sur des accompagnements éventuellement extérieurs. Et il permet aussi la réaffirmation du sujet. Quand je dis réaffirmation du sujet, par rapport à l'être qui pourrait apparaître comme un objet ou une victime, hein, on va retrouver à travers l'humour eh bien, la maîtrise de la situation. C'est ainsi que, par exemple, on peut trouver des personnes qui utilisent l'humour, y compris dans des situations extrêmes, comme on a trouvé des personnes qui utilisent ou qui ont utilisé l'humour dans les camps de concentration, dans les situations d'enfermement, etc., dans les situations de maltraitance intrafamiliale, intraconjugale, etc., etc. C'est un domaine sur lequel je travaille par ailleurs. Et on retrouve l'humour dans des situations comme ça, pour ce qui permet au sujet de retrouver une certaine liberté, de reprendre la maîtrise, ou au moins, même si elle est partielle, trouver un espace de reprendre les rênes, retrouver un espace de liberté, etc. On peut dire, mais là je reprends avec mes mots, puisque je l'ai vu uniquement en anglais, une phrase que j'ai trouvée dans les mémoires de Charlie Chaplin. Ah, déjà mais j'ai bientôt fini. Qui consiste en gros à dire l'humour consiste parfois à se saisir de ses blessures et à jouer avec. Il ne l'a pas dit tout à fait comme ça, mais c'est en substance l'idée. J'ai presque fini, il me reste trois diapos. Quelques mots juste pour revenir sur Lizzie, avec une petite analyse brève de la pluralité des ressources de Lizzie, et vous allez retrouver. On peut dire que si Lizzie a pu, alors qu'elle était censée avoir une trajectoire de vie quand même qui ne paraissait pas comme très très enviable, vue par les médecins notamment, eh bien elle a bénéficié d'un environnement familial affectueux et étayant. Elle raconte, et c'est bien, et c'est sa famille aussi, qu'elle a été élevée comme ses sœurs, qui elles ne sont pas, n'ont pas la maladie, pas différemment. Donc elle a été considérée comme une personne qui n'était pas réduite à l'identification par sa maladie ou par son syndrome. Elle a été élevée le plus possible comme les autres, et notamment comme ses deux sœurs, avec un environnement donc étayant, affectueux, qui ne s'en est pas tenu au pronostic qu'avaient fait les médecins. Elle a aussi bénéficié d'un environnement social soutenant. Elle a un réseau amical, des relations, etc., parce qu'elle a été à l'école. Elle raconte que les premiers temps, quand elle était allée à l'école, ça ne s'est pas passé si bien que ça. Hein. C'est là qu'elle s'est rendue compte de sa différence. Bon, c'est pas tout n'a pas été pavé de roses, mais bon, elle a pu bénéficier donc d'un environnement social soutenant, des amis, des relations. Elle est actuellement, en dehors du fait qu'elle travaille comme... qu'elle fait des conférences, qu'elle écrit des livres, etc. Elle a une implication forte, notamment dans la lutte contre le cyberharcèlement, sachant qu'elle a elle-même été victime de harcèlement d'ailleurs, mais elle travaille pour les autres, en aidant les autres. Et on peut rajouter, bien sûr, qu'elle a des qualités personnelles sur lesquelles, je pense, on peut considérer que le processus de résilience appuie à trouver des appuis, perspicacité, finesse intellectuelle, sentiment d'espoir et l'humour, comme on l'a vu, sachant que bien entendu l'humour n'est qu'une des ressources, même si elle peut être tout à fait intéressante. Je n'ai pas menti, hein, j'en suis à la conclusion. Juste de quelques mots, mais je suis sûre que vous y avez pensé, vous l'avez peut-être déjà dit autrement, simplement pour terminer, on peut dire que ce qui est important, c'est non seulement le regard que les personnes portent sur elles face à l'adversité, c'est-à-dire leur perception propre de la situation. On a vu leur projection dans l'avenir, etc., mais également le regard que l'on porte sur les sujets blessés. C'est cet ensemble aussi qui va aussi participer à la mise en place d'un processus de résilience. Et on pourrait terminer en rappelant ceci. Alors, évidemment, la résilience ne se réduit pas à une attitude optimiste, mais il y a un peu quelque chose de cet ordre-là, un peu une façon d'appréhender l'adversité. Je crois que c'est ma dernière diapo. Ah non, si, j'avais encore ça. Petite citation de Winston Churchill, en tout cas, ça lui est attribué. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Je crois que... Merci.
Je voudrais que vous me disiez la limite entre l'humour et prendre les choses à la légère.
C'est pas uniquement prendre les choses à la légère. Avoir de l'humour peut consister, y compris, j'ai pas le temps de le présenter ici, à utiliser parfois, pourquoi pas, un humour agressif. C'est ce que l'on trouve parfois chez certaines personnes qui sont agressées ou qui ont été agressées, notamment contre leur agresseur. Des formes d'humour dénigrantes. Ça fait partie de l'humour. Alors qu'on a parfois, on pense parfois uniquement à l'humour bienveillant. Là, tout à l'heure, c'est vrai, j'ai parlé de l'autodérision, qui est plutôt bien vue. Mais il n'y a pas que ces formes-là. Alors que, et prendre les choses à la légère, ça peut faire partie de l'humour, mais ça peut être aussi une attitude un peu autre, quoi, en fait. Hein, de toute façon, avoir de l'humour ne consiste pas à, je ne sais pas si c'est à cet aspect-là que vous pensiez, à ne pas prendre en compte la souffrance ou les difficultés. Hein. C'est pas ça serait préjudiciable, ça serait une autre forme de dénigrement, mais différent. Ça serait pas une protection, ce serait quelque chose qui ne prendrait pas en compte. Alors que quelquefois, voilà, prendre à la légère la situation de quelqu'un, c'est pas voilà, faire de l'humour, c'est faire de l'humour avec lui ou la personne elle-même qui fait de l'humour. Merci.